On poursuit. Le président Donald Trump, qui a rompu les négociations avec les démocrates sur la construction du mur, il s'est levé et il est parti. C'est aussi simple que ça.
Bien, ça va pas bien pour M. Trump. Hein? Moi, je veux juste souligner quelques faits. Oui, il y a ces sparages-là. Moi, je pense que ce sont des distractions. Okay? C'est une façon... Cette emphase sur le mur, je pense que c'est une façon de mobiliser sa base électorale. C'est une façon de les garder éveillés parce qu'il va en avoir besoin cruellement bientôt. Je m'explique, ça va pas bien présentement pour lui. À chaque semaine, il y a de nouvelles révélations de l'enquête du procureur spécial Mueller. À chaque semaine, tu as des nouvelles relations. C'est un peu comme le supplice de la goutte sur les liens entre la campagne présidentielle de Trump et des éléments russes. Sa guerre des tarifs commence à faire mal à des gens qui votent pour lui. Le monde dit, j'haïs cette expression-là, ordinaire, etc. Et s'il perd en 2020, dites-vous une affaire, Donald Trump n'aura pas de pardon présidentiel, que ce soit de Pence ou que ce soit de lui-même, parce qu'on le sait, là, son administration fait flotter cette probabilité-là, cette possibilité-là, qu'il soit lui-même en mesure de se pardonner. S'il perd et qu'un président démocrate ou une présidente démocrate s'installe, c'est sûr qu'il n'y en aura pas de pardon. Donc, pour moi, tout l'épisode qu'on a vu cette semaine, tout le drama, pour parler latin, qui a entouré l'histoire du mur, c'est une façon de faire oublier ces troubles-là. Mm-hmm. C'est une façon de garder sa base mobilisée. Il ne faut pas perdre ça de vue.
Le problème, c'est que ce n'est pas sûr que ce soit en train de réussir. Ce n'est pas clair de retrouver des sondages qui disent clairement... Il y a plein de sondages quand on va là, sur les sites anglais puis français. Grosso modo, ce qu'on sait, c'est que la majorité des Américains, à 60 % à 50 %, ça varie selon les sondages, sont opposés au shutdown, à l'arrêt donc des services gouvernementaux puis à la mise au chômage de 800 000 fonctionnaires, donc une très grande majorité, et une majorité sont aussi opposés à la construction du mur, soit parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le mur en lui-même, soit parce qu'ils trouvent que c'est un moyen inefficace. Il reste que dans tous les sondages, il y a un 30-35 % selon ce que je peux évaluer là, de gens qui appuient Trump. C'est de ça dont on parle. On parle de sa base dure, celle qui l'a élu, augmentée de d'autres, parce qu'il a quand même été... il y a eu plus que ce pourcentage-là. Donc, quand son discours a pour but de réveiller son soutien, ça fonctionne pour une minorité. La grande question, c'est cette minorité-là est-elle en mesure d'influencer ses élus républicains de telle sorte que lui conserve au moins le soutien des sénateurs républicains majoritaires au Sénat et d'une partie des élus gouvernementaux de la Chambre des représentants. Or, il semble, et ça aussi je viens de le lire, que c'est en train de s'effriter. Par exemple, la rencontre, je termine avec ça, la rencontre qu'il y a eu avec les élus républicains avant de négocier, oui, de pas négocier avec Mme Pelosi puis les démocrates, eh ben, il semble que ce soit pas un succès aussi formidable qu'il l'a dit. Au contraire, il y a de plus en plus d'élus qui sont en train d'abandonner cette position-là.
Oui. Quand je dis que ça va mal, il y a des sénateurs républicains qui font face à un cycle électoral qui commence parce que pendant la prochaine présidentielle, eux aussi mettent leur siège en jeu. Il y a des sénateurs républicains qui commencent à sentir la soupe chaude, qui commencent, tu sais, je disais tantôt, la guerre aux tarifs. La guerre aux tarifs, à un moment donné, ça fait en sorte que, ben écoute, t'as une guerre commerciale avec la Chine et avec d'autres pays, ben, il y a une usine ici qui va commencer à mettre des gens à pied. Il y a des produits qui se vendent moins bien, etc., etc. Il y a des produits que des agriculteurs américains achètent sur les marchés internationaux qui deviennent plus difficiles ou plus chers à obtenir. Tout ça fait en sorte que, écoute, il y a des gens qui, il y a des gens, pas dans l'équipe de Trump, parce que son parti, tu sais, je comprends qu'il y a une grosse communauté d'esprit, mais les sénateurs républicains, là, les représentants au Congrès, ouais, ils aiment Trump, mais ils l'aiment pas d'amour, généralement. Ce qu'ils aiment d'abord, c'est garder leur siège.
Oui.
Et entre leur siège et soutenir Trump jusqu'au bout, je suis pas sûr de ce qui va se passer.
Puis on a l'impression qu'il est vu comme quelqu'un de... qu'il est vu comme quelqu'un de droite qui est dans la mouvance du Parti républicain. Je veux dire, la mouvance la plus à droite du Parti républicain, il trouve pas mal à gauche, puis trouve qu'il est complètement hors norme de l'essence même de ce qui est ce parti-là. Oui. Puis ça n'a pas changé, là.
De telle sorte que là...
C'était ça avant l'élection.
La question, puis malgré qu'il y a un plein emploi et le taux d'emploi est extrêmement élevé aux États-Unis, et ça, mais il l'utilise peu de ce temps-là. Donc la question, c'est de savoir, mais il va aller où, Trump? Parce que il y a deux choses. Si son appui républicain s'effrite, alors il serait obligé de reculer, ce qui est inacceptable, je pense, dans sa psychologie. Donc, il s'en va vers ce dont on parle de plus en plus, décréter une urgence nationale, de telle sorte qu'il pourrait outrepasser les pouvoirs du Sénat et de la Chambre des représentants et construire ou demander. Et il semble que les fonds accessibles dans le cas d'un décret, ce serait du côté du Pentagone et des militaires, utiliser la force des militaires et leur ingénierie pour construire ce fameux mur.
C'est fascinant parce qu'il y a des éléments dans la population américaine qui sont paranoïaques. Ce que je veux dire par là, c'est que tu as une masse critique. Tu en as partout, des gens qui sont parano. Mais aux États-Unis, tu as une masse critique qui permet à tout un complexe médiatique. Par exemple, je nomme InfoWars, qui est dirigé par un fou qui s'appelle Alex Jones. Alex Jones, pour vous donner une idée, est suivi par des millions de personnes. Et Alex Jones pense que le massacre de Sandy Hook, là, les massacres des jeunes écoliers d'une école élémentaire, ben, ce sont des acteurs. Rien de ça n'est arrivé. Okay? Il y a des gens qui pensent que ça, c'est vrai. Ces gens-là, là, depuis des années, ils nous disent que le gouvernement américain crée des crises. Le gouvernement américain a inventé un complot et qui était derrière, par exemple, les attentats de septembre 2011. Et on riait de ces gens-là. Et Trump, avec la crise du mur, c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de créer une crise de toutes pièces, ce qu'on appelle une sorte de false flag. Et c'est comme devenu normal. Ce dont on riait, le délire paranoïaque de ces gens-là, est en train de se créer sous nos yeux. Et c'est un peu vu comme quelque chose de normal, comme une manœuvre politique régulière. Ça aussi, c'est inquiétant, parce que ça abaisse les standards de ce qui est vrai, de ce qui est faux, on le sait depuis longtemps, mais de ce qui est grave et de ce qui ne l'est pas.
Puis ça dénature les débats réels, parce qu'il y a des débats réels aux États-Unis qui ne sont pas menés sur, évidemment, par exemple, les drogues dont il parlait. Le combat contre les drogues aux États-Unis, c'est une affaire dont
on parle. La crise des opioïdes,
c'est Loïc Tassé que je lisais, qui disait, il y a une diminution grave des sujets importants, comme l'immigration. Comment on fait aux États-Unis? Parce que c'est un pays d'immigration. C'est un pays qui a besoin de l'immigration. Le plein emploi existe et on sait très bien qu'une partie de la main-d'œuvre américaine doit provenir de ces milieux-là parce qu'elle est exploitée et c'est des gens qu'on exploitera. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cette immigration-là? Comment on intègre, comment on intègre la natalité et puis tout ça? Ouais. Il y a des grands sujets qui, actuellement, sont mis au rencard par des folies de Trump.
Des folies. Quand je parle de faux débats puis de crises qui sont conçues en laboratoire, Mathieu, Pierre, le président est allé raconter quelques cas tragiques de migrants. Puis on sait qu'il y a des demi-vérités là-dedans qui ont tué, qui ont violé, etc. Et là, le président s'adresse au Congrès en disant « Faut que vous agissiez, faut que vous me donniez les fonds. » Quand 25, 30, 40 Américains sont massacrés à l'arme automatique, là, qu'est-ce qu'ils font, les politiciens républicains?
Hein? Qu'est-ce prayers qu'ils
envoient?
And thought.
Ils envoient des prières et des pensées.
Ouais. C'est ça. Messieurs, je vous envoie une prière et pensée, allez en paix. Oui. Mais pas dans la sexualité.
L'archevêché te remercie.
Exactement. 8h53. Autrement, des Laurentides, Linda.